Je remercie Madame la Présidente de m'avoir permis de présenter cet exposé sur les peintres et musiciens classiques du 19e et 20e siècle inspirés par l'Italie, ainsi que Claude Viviani pour ses conseils techniques et informatiques. Pour des raisons d'horaire, le sujet étant très vaste, nous avons décidé d'un commun accord de nous limiter au 19e siècle. Le 20e siècle sera pour la prochaine fois. Je vais vous montrer le plan à peu près de la conférence. Au centre, vous avez les musiciens dont je parlerai. À droite, vous avez les peintres. David est mis en retrait parce que ce n'est pas absolument un peintre classique, c'est un professionnel. Il y a des flèches qui délimitent le temps des impressionnistes, de l'immigration italienne, du Risorgimento et de Napoléon III. Ces deux flèches sont à peu près symétriques. Hein. Voilà. Vous avez des questions à poser ? Non ? Comment ? Oui, c'est trop court ? Trop long ? Ça va ? On passe au suivant. Alors, on commence par Ingres, qui sort des chemins officiels tracés par David et profite du balayage de principes religieux par la Révolution française. Il se donnera une image libertine avec ses nues osées et là, ce tableau de Raphaël peignant la boulangère assise sur ses genoux. Bon, vous le connaissiez ? Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est nécessaire de s'en référer aux moyens de transport qui permettaient aux Européens du Nord et de l'Est de se rendre en Italie. Nous avons le col du Brenner à 1370 mètres d'altitude, qui fut le seul moyen depuis l'an 268 de se rendre en Italie pour les Autrichiens et les Germains, ceci pour longtemps. Nous avons le col du Montjoux, le passage privilégié des pèlerins se rendant à Rome, itinéraire principal de la Via Francigena. Il prit alors plus tard le nom de col du Saint-Gothard. Puis, après Saint-Bernard demanda à l'évêque d'Aoste de chasser tous les brigands qui hantaient ce lieu, il s'appellera alors col du Grand Saint-Bernard. Bonaparte y passa, non à cheval comme le montre David dans son tableau, mais à dos de mulet accompagné d'un jeune guide qu'il gratifiera après, car ce jeune guide lui avait confié tous ses ennuis financiers que lui causait son mariage, un beau geste qui n'est pas toujours dans les livres d'histoire. Le parlera aussi du col du Mont-Cenis. Il devait raccorder Turin à Lens-le-Bourg en France. La route sera terminée qu'en 1807. Le pape Pie VII devant se rendre en France pour le sacre de Napoléon. La route pouvant être empruntée par les carrosses pontificaux s'arrêtait à 20 km du refuge du Mont-Cenis. Le transfert dans les chariots ou traîneaux se fit dans des conditions épouvantables de vent, de froid et de lenteur jusqu'au refuge du col. Le lendemain, le pape tomba malade, tellement malade qu'on lui administra l'extrême onction. Mais guéri brutalement, subitement, il put reprendre la route pour Paris, très amaigri, très fatigué. C'est pour ça que Napoléon a saisi la couronne, parce qu'il pensait que ce pape était extrêmement affaibli, il ne pouvait pas porter une couronne. Une couronne, c'est très lourd. Hein. Ça va pas ? Ah bon, d'accord. Le col du Mont-Cenis avait une tellement mauvaise réputation que, pour prendre un exemple, en 1833, Georges Sand préférera prendre la Malle-Poste pour Lyon, le Coche d'Eau ensuite pour Arles, Arles-Marseille par le Petit Rhône et ensuite la route pour l'Italie. Résultat, un mois de trajet pour Venise en compagnie de Musset, censé la protéger, mais on sait ce qu'il en est advenu. Hein. La voie maritime Naples-Gênes et vice-versa, très empruntée par les castrats napolitains jusqu'au 19e siècle. C'est pourquoi, après le congrès de Vienne en 1815, la Suisse retrouvera ses frontières d'avant la Révolution. Le col du Grand Saint-Bernard sera rendu à la Suisse. Donc, on ne passe plus par la Suisse puisque Napoléon a été rayé de la carte. Avec l'essor des chemins de fer, le tunnel ferroviaire du Mont-Cenis fut terminé qu'en 1875. Mais en 1855, la ligne Paris-Lyon-Marseille, inaugurée en grande pompe par Napoléon III et son épouse, détournera de l'Italie pas mal de peintres français. Ils y étaient allés avant que cette ligne de chemin de fer fût fonctionnelle, mais ils trouvèrent que la lumière du midi de la France valait bien celle de l'Italie. Et c'est pour cela que des Cézanne, Matisse, Van Gogh et autres peintres du XXe siècle célébreront la lumière de notre midi, de la France, sur la toile grâce au PLM. Trajet moins long que pour reprendre le tunnel du Mont-Cenis et moins coûteux pour tous. Alors, on va passer ensuite à l'eau. L'eau. Ah, il n'y a rien. Bon, alors. Oui, mais il n'y a rien parce que c'est une... C'est de la musique. Fontaine de la Villa d'Est, jeu d'eau de la Villa d'Est, de Franz Liszt. Donc Franz Liszt était en avance un petit peu sur les impressionnistes peintres, parce que ça date de 30 ans avant le début de l'impressionnisme. Et c'est franchement une musique, moi quand je l'entends, j'ai l'impression que l'eau coule sur mon visage, j'entends les fontaines, c'est une belle musique. Hein. Donc on va passer à une autre vue. Bon, on passe à Eugène Boudin, peintre. C'est le ciel de Venise. Eugène Boudin était le spécialiste des ciels. Et là, je me suis limité à un seul tableau d'Eugène Boudin, mais je trouve très joli. Les contrastes entre la mer, le ciel, les fumées des navires. Voilà. J'aime bien les contrastes de ce tableau. Hein. Nous retrouvons Liszt en musique dans Saint François d'Assise parlant aux oiseaux. Alors, le bouton que vous voyez, c'est un truc pour déclencher la musique. J'ai pas pu faire autrement, mais c'est pas un écouteur. C'est Corot. Corot fit son premier voyage en Italie en 1825. Cela fait partie du grand tour que tout jeune artiste de bonne famille faisait en Italie sous la pression de ses parents, qui l'ont aidé financièrement pour ce premier voyage. Alors là, nous sommes sur la vue des jardins Farnèse. Il faut noter la lumière qui est très belle. Elle vient en arrosant un petit peu les constructions. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le parasite qui grimpe sur l'arbre, parce qu'on le voit partir à l'assaut de l'arbre, et cette vue panoramique est très belle. Ensuite, des vues du château Saint-Ange et du Tigre. Alors là, nous n'avons pas de personnage, c'est que, disons, c'est pas mal. Mais enfin, j'aime mieux la diapo suivante, où là, on a... Comment ? Le truc, là ? Corot, c'est toujours Corot, hein. Donc là, on a vu sur les activités de Rome, parce que c'était un peintre qui s'intéressait au paysage, mais il s'intéressait également aux activités. On voit les bateliers, les pêcheurs, tout ça. J'aime pas mal aussi ce tableau-là. Voilà, celui-là, c'est les jardins de la Villa d'Est. Alors là, il y a une étude du vent. Le gamin qui tient à peine assis sur la balustrade, et la lumière qui surgit dans les pilastres de la barrière de droite. Donc il y a vent, lumière et un petit peu d'agitation. Du gamin, c'est pas mal aussi. Alors le pont, nous avons la Florence vue des jardins Boboli. Ça, quand on y est allé récemment, on a trouvé à peu près la même vue, puisque le centre n'a pas bougé. Le pont de Narni, 1835, c'est un pont qui était du temps d'Auguste. Hein. Il a été éboulé, il s'est éboulé tout seul, je crois, au passage de Légion, je ne saurais plus. Ouais. Alors, nous avons ensuite une vue. Alors, celle-là, je n'ai pas pu avoir une bonne vue. C'est la vue de la vasque de la Villa Médicis par Corot. Il a pris simplement des images, il a terminé ce tableau en France. C'est pas un des meilleurs que j'ai trouvé, parce que finalement, c'est très sombre. Mais j'ai trouvé que ça. Hein. Voilà, alors un autre, Maurice Denis, 1898, la vasque de la Villa Médicis. Alors le lot est représenté en bleu, mais il y a du rouge partout. C'était les nabis, hein. C'était un peintre des nabis qui disait que de toute façon le sujet importait peu, mais qu'il fallait apporter de la peinture et de la couleur. Hein. Mais on ne peut pas dire que c'est moche, parce que finalement l'arrière-plan est assez joli. Les arbres sont taillés de façon symétrique, étaient comme ça à l'époque, je ne saurais pas le dire. Nous avons une vue actuelle, et là on voit très bien au centre de la vasque le boulet que les autres peintres avaient ignoré. Et le boulet soi-disant tiré du château Saint-Ange sur les ordres de Catherine II de Suède. Elle avait un artilleur de choc, puisque le boulet est tombé pile au centre de la... Peut-être qu'on l'a ramassé un petit peu et mis à côté, mais c'est de forte chance. Hein. Bon. Alors là, je passe à un truc assez triste, parce que c'est un peintre français qui a vécu à Venise, et... qui était très faible de tempérament. Il est né à La Chaux-de-Fonds, tantôt habitant à Rome, tantôt à Venise, où il tomba amoureux de Charlotte Bonaparte, qui l'aida quand même dans ses débuts pour le laisser tomber plus tard. Il en saisit, il s'en suivit un chagrin monstrueux de ce pauvre peintre, tantôt habitant aussi à Venise, ou lors d'une excursion à Chioggia. Il prit conscience de la dure vie des pêcheurs. Alors vous allez voir, c'était son tableau dont il était très fier. Et ayant reçu Michelet lui dit que son tableau était affreux, que c'était le plus mauvais qu'il avait fait. C'est sympa. Et bien, toujours est-il que quelques temps après, il se suicidait. Hein. Alors, ce tableau a un intérêt, parce que souvent on voit des... Bon, dans l'ancien temps, c'était les chapelles, les Christ, les... Là, on a une vue de gens qui travaillent dur pour fournir du... poisson frais tous les matins pour les tables des grands de Venise. Donc il fait un temps d'orage, la lionne montre le ciel couvert, les femmes pleurent parce qu'elles se disent que peut-être il va y avoir des naufragés, qu'il va y avoir des morts. Donc moi je trouve que les couleurs sont pas belles, bien sûr, parce que c'est aussi difficile de trouver de bonnes copies de ce tableau. Mais c'est le temps, hein, c'est le temps, l'orage. C'est un des rares qui s'est occupé vraiment de la vie des gens pauvres qui devaient fournir un travail par tous les temps. Bon, son suicide, qu'est-ce que vous voulez, il était un peu neurasthénique. Qu'un copain comme Michelet lui dise que c'était affreux, ça fait déborder le vase, et pour vieux, c'est débordé. Alors, on va passer... pour vous montrer que c'est un bon peintre quand même, ça c'est un tableau d'une jeune fille suisse, et là c'est Retour de pèlerinage de la Madone de l'Arc, c'est dans la région de Naples, hein, ça. Donc on ne peut pas dire que c'était un mauvais peintre. Seulement, il était un peu dépressif, et comme je dis, le coup de dire que son tableau sur Chioggia était moche, ça l'a liquidé, ça l'a descendu. Bon, alors, dans ces pèlerinages, j'ai parlé de la saltarelle vue par Mendelssohn, alors on va essayer d'en s'en sortir. Bon, Mendelssohn n'a pas l'air de vouloir sortir. Alors vous avez un mouvement de saltarelle. Hein. Saltarelle, ça vient du latin, saltare, sauter, et puis en italien c'est saltare, sauter également, et un morceau comme ça, comme vous avez entendu, c'est saltarello. Je vois pas pourquoi c'est masculin, mais enfin c'est parce que peut-être les hommes danseraient contre eux, je sais pas, saltarello c'est pas féminin. Bon, on revient en arrière, pour écouter... La marche des pèlerins. Pourquoi j'ai passé ça? Parce que Harold en Italie, c'est un... Parce que Harold en Italie, c'est une pièce qui a été commandée par Paganini et que Berlioz a mis en musique. Au bout de deux fois, Paganini, c'est un musicien extrêmement exigeant. Et Berlioz a dû se faire deux copies de Harold en Italie, dont vous avez entendu un extrait. Alors vous aviez des chants d'espérance, c'était les violons. Et la peine, la douleur de la marche de pèlerinage, c'était les cuivres que vous avez. Vous voulez que je repasse? Non, je... Oui. Oui, oui, on le repasse alors.
Thank you.
Berlioz, c'est un musicien français, bien sûr. Les Anglais... c'est un musicien français que les Anglais exploitent plus que nous. Oui. Comment ? Si. C'est un grand musicien, mais les Anglais s'occupent plus de Berlioz que nous. Nous, on a tendance à le laisser un petit peu tomber. Voilà. Alors là, on passe à un tableau qui s'appelle Liszt au piano, qui est un tableau d'un peintre allemand. Alors on les a tous là. En haut à gauche, vous avez Berlioz. Je les ai tous là. Paganini et Rossini. En haut. Rossini est gros. En bas, c'est soi-disant Musset, et puis on en voit qu'avec George Sand, alors, il lui fait des caresses. Enfin, c'est un grand garçon, hein, et elle aussi. En bas, vous avez Marie Rabeau en extase devant Lys. Comment tu me dis quelque chose? Comment? Dagou. Marie Dagou qui... Il ouais, faut bien vous faire rire un petit peu. Alors, elle est en extase devant Lys, elle tombe à ses pieds, elle écoute la musique. Voilà. Bon, on peut aller... Oui, dans Marie Rabeau, oui, ça. Alors, la campanilla, bah, on revient toujours à Liszt. Hein. J'ai là-haut les arpèges. Je vais vous dire qu'entre la note rouge et celle du bas, vous avez 53 cm. Donc, la main est obligée d'être très agile. Pour, c'est des pianistes émérites qui l'interprètent, hein, parce que ça ne peut pas être n'importe qui. Donc, c'est Liszt Paganini, parce que Paganini... Bah, il aimait la difficulté, même il avait la réputation d'avoir fait un pacte avec le diable en Italie, parce que ses préludes, c'est quelque chose d'infiniment difficile, et la campanella, il faut vraiment un artiste à la hauteur. Alors je vous passe, si c'est possible, un extrait. Change pour Turner. Alors moi je dans mon commentaire j'ai mis English Fog à Venise, parce que de toute façon pour savoir que c'est à Venise faut être fort. Mais c'est le brouillard anglais des impressionnistes anglais qui a débarqué à Venise. De toute façon on peut rien dire, hein. Alors Barcarolle, on parle des Barcarolle. Le Barcarolle c'est une mélodie au rythme ternaire avec un accompagnement rythmiquement uniforme qui imite le balancement de la gondole sur l'eau. La barcarolle la plus connue est celle de Count d'Hoffmann. Celle de Chopin est plus technique du point de vue pianistique et un peu moins connue. Moi, je préfère hautement celle des Count d'Hoffmann parce que c'est vraiment le balancement de la gondole hein, qu'on entend. Bon, je ne l'ai pas sorti parce que tout le monde le connaît. On va passer... Non ? Ben, j'ai pas pu tout mettre. Hein. Voilà, on parlera de François-Xavier Fabre, 1766-1837. C'est un peintre français qui a quitté la France pour l'Italie avant la Révolution française. Il prêche le retour au classicisme. Son tableau le plus connu est la Sainte Famille avec Saint Jean-Baptiste, enfant. C'est le tableau de gauche. Il épousera la comtesse italienne, comtesse d'Albany, après la mort de Vittorio Alfieri, qui était son second mari. Elle lui assurera une place non négligeable dans la société de Rome. Mais ce que je vous conseille, si vous, Fabre vous inspire, c'est de visiter le musée Fabre à Montpellier, qui fait partie des musées qu'on aime beaucoup. On passe à Rossetti, fils d'un immigré italien. Il fait partie des pré-raphaélites qui avaient le désir de retrouver l'esprit des peintres du Quattrocento. Ils avaient une foi naïve mais belle qu'ils n'ont pu retrouver totalement sur leur tableau, car ils cherchaient l'impossible. Rossetti sera plus à l'aise dans l'histoire de la Divine Comédie de Dante. Il épousera Elisabeth Sidal, dite Lizzie, qui était très jolie, un petit menton un petit peu en avant. Elle se suicidera parce que Rossetti l'a trompée honteusement pendant des années et à la fin elle a craqué. Elle a avalé du nez. Alors, Beata Béatrice, c'est le tableau fétiche de Rossetti. Sa fameuse toile est la vision de la Béatrice de Dante confondue avec l'image de Lizzie, sa femme, transportée au paradis. Un oiseau étrange. En bas à gauche, à droite, pardon, fond des cieux et lui porte un pavot épanoui. La tête légèrement jetée en arrière dans une extase de mort qui n'est pas vraiment la mort. En haut à gauche, l'amour, là vous voyez, tenant dans ses mains un cœur lumineux, le regard tourné vers Dante qui tourne tristement la tête vers la voie qui mène à l'amour. Un peu plus bas, un cadran solaire. C'est un cadran solaire. Ben moi aussi. C'est parce que je l'ai trouvé comme ça par hasard sur un autre tableau. Et c'est un cadran solaire qui parle du temps, qui s'écoule. Alors, toujours de Rossetti, la Pia de Ptolémée, c'est la même source d'inspiration, le même visage d'Elisabeth. Un seigneur enferme sa jeune femme issue de la famille Ptolémaïe dans un château situé dans un pays insalubre. Elle y languit, puis meurt. Il y a bien là encore un cadran solaire. Rossetti exaspère ses visions douloureuses de beauté languissante, déjà dans un autre monde. Pour l'histoire de Rossetti, Lizzie, à sa mort, emportera dans sa tombe les poèmes de son mari. C'était son vœu. Vers la fin de sa vie, il a eu besoin de sous car ses tableaux ne se vendaient plus. Il est allé la chercher dans la tombe pour les publier. Et plus tard, lui aussi, il se suicidera. Donc, des profondices. Bah, de toute façon, dans ces peintres, c'est un peu normal parce qu'ils n'avaient plus de mécènes. Hein. Donc ils étaient obligés de compter sur eux-mêmes, sur leurs travaux. Et quand ils avaient de l'argent, ça allait. Quand ils n'avaient pas, c'était la catastrophe. Hein. Alors nous allons voir les filles d'Alvito, peintre français, Ernest Hébert. Alvito, c'est un village compris entre Rome et Naples. C'est un sujet sans histoire, sans anecdote, mais d'époque, dans un décor rocailleux. Pas de sourire de la part des porteuses d'eau, et une réserve sans équivoque dans les regards de ces jeunes filles. Le site rocailleux a été fait à Cervera di Roma, c'est un village qui est entre Rome et Naples. Hein. Si vous voulez, le sujet, c'est Habito, le film qui porte l'eau, et le décor rocailleux, ça a été pris dans un autre village qui s'appelle Cervera di Roma. Alors, un des tableaux que j'adore, c'est Alfred de Curzon, souvenir de Pissinisco. Pissinisco est un village situé dans les Abruzzes, entre Rome et Naples. Il y séjourne un peu de temps. Une jeune mère garde son enfant, calme et tranquillité sont les documents de cette toile, les dominants de cette toile, pardon, très vivante grâce aux gestes.
Tu touches le micro, ça fait un bruit en fait.
Non, d'accord. Grâce aux gestes du bras gauche de la mère qui agrandit le tableau. Il donne du mouvement, il fait chaud. Les pieds de la mère se rafraîchissent sur le carrelage. Dehors, l'air doit vibrer de chaleur. Et c'est un tableau que je trouve ça joli, très. Pourtant un peintre français, oui, il y a pas. Ça avait le goût quand même de.
On n'entend pas. Non.
Ah bah oui, mais si.
Non, ne touche pas, vraiment. Ah. Ça fait du bruit. Tu lâches. Vas-y, pars.
Addendum sur la vie de Boldini. Boldini, c'est un peintre qui était tantôt en France, tantôt en Italie. Il fait connaître l'esprit des impressionnistes. On n'entend pas ? Non, il n'y a pas de vue sur. C'est un addendum. Ce sont des peintres. Alors, ce seront les Machiaoli. Ce sont des peintres dont la technique est de rendre les impressions sur la toile au moyen de tons colorés en taches, produites par la synthèse du dessin et de la couleur. Macchia en Italie signifie tache, d'où le nom de Machiaoli. Ce sont les impressionnistes italiens. Non, on n'a pas fait de conférence sur les impressionnistes italiens parce que c'est un peu hors du sujet quand même. Hein. Voilà. Jardin de Bodighiera, de 1875, de Claude Monet. Alors là, c'est vraiment un tableau impressionniste. Hein. Il l'a fait au retour d'un voyage en compagnie de peintres français. Et c'est un des derniers qu'il aura peint en Italie. On parle du loup de Gubbio, de Luc-Olivier Merson. Le peintre continue avec cette peinture à illustrer Mon ami le loup de Saint François d'Assise. Le loup de Gubbio est nimbé d'une auréole, on la voit là, sur la tête. Il se fera nourrir pendant 2 ans à Gubbio par les habitants, sans violence de sa part envers eux et vice versa. Donc c'est la légende de Saint François d'Assise. Et je trouve que le détail de. Sont bien rendus. Hein. Il y a la neige, il y a l'homme qui lui donne à manger, il y a les rôtis qui sont rendus. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de détails. Alors on passe à Gustave Moreau, 1875. C'est la crucifixion d'après Mantegna. Donc c'est d'après Mantegna, hein, peintre italien. Là, il parle au bon larron, qui est crucifié à droite également, à sa droite, tandis que celui de gauche ne parle pas. Donc le Christ prédit à celui qui parle d'être pardonné de ses péchés et qu'il n'ira pas en enfer. C'est au musée Gustave Moreau. Ceux qui connaissent, c'est un musée formidable, où il y a extraordinaire. Dans une ancienne maison, on monte des escaliers, ça quelque chose. C'était sa maison. Et c'est près de la gare Saint-Lazare, donc c'est très facile d'y accéder. Hein. Alors, il a quand même fait une exception pour Messaline, parce que normalement, il faisait des peintures plutôt portées sur la mythologie. Et là, c'est l'Odyssée. Donc c'est l'histoire de Messaline et qui s'est cueillir par les bateliers du Tibre. C'est également au musée Gustave Moreau. Alors j'ai dégoté une petite chanson rigolote de Tchaïkovski. Il y a un petit côté populaire dedans. Il va falloir que je puisse la faire sortir, voilà.
Ah. Un des classiques.
C'est du Tchaïkovski, on croirait pas, hein, mais c'est bon, il y a un petit côté populaire parce que ça a dû être tourné à Naples. Je pense que c'est tourné à Naples par une fanfare municipale ou un groupe. Mais c'est extraordinaire que Le Soleil de l'Italie ait pu influencer sur le moral de Tchaïkovski comme ça. Parce que c'était un être extrêmement sensible, extrêmement neurasthénique, très timide. Et l'Italie l'a surgonflé. Vous verrez à la fin, on va repasser quelques morceaux de Tchaïkovski. C'est quelqu'un qui est gay. Quand il est revenu à Saint-Pétersbourg, après avoir quitté l'Italie, sa femme l'a quitté parce que c'était un mariage raté. Il avait des tendances un peu homosexuelles. Donc c'est un mariage qui a capoté. Et il s'est enfoncé de plus en plus dans sa neurasthénie. Moi, j'adore sa symphonie numéro 6, la pathétique, parce que c'est la dernière symphonie qui finit sur un souffle. C'est pas du tout ça qu'on a entendu. Mais c'est cette façade bipolaire, on peut dire, que l'Italie a révélée en le rendant gay, et les enquiquinements qu'il a trouvés en Saint-Pétersbourg quand il est revenu, c'est une personnalité double. Mais il a résisté quand même jusqu'au bout. Il est mort, on peut penser, du choléra, puisque c'est sa mère qui l'a précédé de 3 semaines. Il y a d'autres hypothèses, plus ou moins tirées par les cheveux, mais Tchaïkovski, c'est quand même un musicien admirable. Hein. Bon, il y en a un autre qui n'était pas... Si, il a écrit de la musique, mais c'était Louis II de Bavière, qui eut une courte rémission de sa neurasthénie également, au cours d'un voyage en Italie. Mais Louis II de Bavière, c'était trop court, donc il n'a pas eu le temps de vraiment guérir. Hein. Voilà, là c'est une petite comparaison entre Monet et Manet. Alors lequel vous préférez ? Les deux sont... le tableau de Monet, Saint-Georges, bon, il a quand même... Monet ne s'est pas tellement plu à Venise. Il a fait que peindre les monuments les plus connus. D'abord, il y avait les pigeons qui l'embêtaient. il ne se plaisait pas tellement à Venise. Hein. Donc, il a fait que les monuments les plus connus. Manet, je trouve que son tableau est extraordinaire, parce que quand je le regarde, j'ai l'impression que l'eau se met à bouger. Hein. Il y a un relief vivant dans ce tableau. Enfin, c'était intéressant de comparer les deux peintres sur un sujet à peu près identique. Hein. Voilà, vous avez Renoir, la baie de Salerne. C'est un tableau construit selon les lois qui donne la perspective, ou tout du moins le relief. Le premier plan est foncé à gauche, donc ça, c'est une technique de peinture. Quand on veut donner du relief à une image plate, on fait le premier plan sombre, le deuxième qui est jaune moins sombre, le troisième, le quatrième sont les sièges qui sont beaucoup plus légers. Ce tableau, vous le verrez, je l'ai découpé en, disons, sa photographie, pour illustrer comment, dans la prochaine conférence, si je la fais, on peut transformer quelque chose de classique en quelque chose de baroque, de cubiste. Et donc, c'est savoir si on prendra ce tableau-là ou un autre, c'est vraiment une tendance spéciale. Alors après, ben, je vais terminer par Victor Prouvé, peintre français. Dans ce tableau, Victor Prouvé illustre le texte de Dante. L'infernal tourbillon, tournoyant sans cesse, emporte les esprits mêlés dans son tumulte, les frappe, les culbute, les presse de partout, les faisant rouler au bord du précipice où l'on sent redoubler leur angoisse et leurs cris. Et ils insultent tous la divine bonté. C'est un tableau où le rouge prédomine. Est-ce que c'est un hasard, parce que c'est l'enfer, on ne saura pas dire. Hein. Alors, on termine par trois tableaux. Evelyne de Morgan, qui est une femme peintre, c'est la fin des pré-raphaélites. Elle a peint cette femme qu'elle a appelée Flora, mais tous les critiques de peinture s'accordent à dire qu'elle s'est inspirée de Botticelli. Jusqu'à la position de la tête, la chevelure, le vêtement, les feuillages, très important. Et c'est un très très beau tableau. Hein. C'est une... Les cheveux, oui. C'est des peintres anglais, je ne saurais pas vous dire, ça doit être la National Gallery à Londres, j'en suis pas sûr. Hein. Voilà un peintre français, c'est toujours le même, Maurice Denis, l'Annonciation à Fiesole. Alors là, il est un peu tombé amoureux de la fille du monsieur qu'il recevait dans la propriété, vous voyez derrière, et de la vie ancienne vierge. Donc elle porte un bouquet de fleurs. L'ange Gabriel, ben, c'est un prêtre entouré des deux enfants de cœur qui montre le palmier qui est l'arbre de la justice et du droit. Tout ça se passe dans une douce lumière florentine et vous avez les colonnes. C'est des peintres, hein, c'est un habit. Hein, donc il a mis beaucoup de bleu, un peu de rouge, mais c'est pas tellement désagréable comme tableau. Un peu naïf, légèrement, mais enfin, c'est lui qui disait, attendez, j'ai ces paroles, une peinture avant d'être un cheval de bataille, une femme nue, ou une quelconque anecdote, est essentiellement une surface plane, recouverte de couleurs en un certain ordre, assemblée. Avec cette formule, les nabis contribuèrent de manière décisive au renouvellement de la conception du tableau. Voilà, mais c'est pas un impressionniste, c'est un habit. Comment ? Alors on termine avec Paul Signac, Capodinoli. Alors là, Signac, C'est un, on le classe dans le néo-impressionniste. Capodinoli, ben, vous savez, c'est ça va être le sud de l'Italie, je pense. Alors, on a un témoignage de sa façon de travailler. Je commence ce tableau. Et je voudrais atteindre une polychromie extrême pour m'entraîner juste de mes échantillons de soie teintés, si brillants et si intenses. Un à un, je les transpose sur la toile. Je voudrais qu'il ne reste plus un centimètre de teinte plate et veux varier à l'extrême chaque coin du tableau. Paul Signac est classé dans le groupe des néo-impressionnistes à partir de 1866. Alors, on va terminer par quelques fichiers musicaux. Voilà. Capriccio italien de Tchaïkovski. Le char que vous voyez, c'est un char qui était tiré par des chevaux, bien sûr, mais conçu par des Français. Donc Schumann, qui a passé également, qui a vécu le carnaval de Rome, et Tchaïkovski ont sûrement vu ce char. Alors, c'est pour ça que je l'ai mis. Pour avoir... Alors la musique, on va essayer de la voir. Capriccio italien. De Charles Gounod et Tchaïkovski, on va continuer toujours avec Tchaïkovski. Pour Charles Gounod, je serais obligé de changer un petit peu de format, mais enfin, c'est pas grave. Souvenir de Florence. Alors là, c'est le poète qui médite sur Florence, majestueusement. Beauté, classicisme, passe à un format classique, hein, je suis désolé. Alors, pour Roméo et Juliette, j'ai choisi non pas Robert Alagna, Roberto Alagna, mais j'ai plutôt choisi un ténor français qui est mort en 1953, qui s'appelait Georges Till, et que j'adore ce qu'il fait. Dans notre famille, on était très Georges Till. Alors, je me suis fait un petit plaisir, j'espère que vous allez le partager. Alors c'est... Il faut bien conclure. Il faut bien conclure. Qu'est-ce que vous voulez que je vois une image?
On tombe vraiment sur la tête.
Ah oui, c'est la scène du balcon, ça, t'as raison. Lève-toi soleil, mais quelle belle phrase quand même, même en français. Il n'y a pas que le chant, fais pas lire les étoiles, c'est formidable comme diction. Bon, il faut bien conclure. Pour les peintres du XIXe siècle, il n'y avait plus de mécènes, princes ou religieux qui donnaient à leurs prédécesseurs des siècles passés des commandes importantes qui les aidaient à vivre. Des fois, certains peintres comme Raphaël ont vécu des coups de canne, ont reçu des coups de canne parce qu'ils mettaient du temps à finir la chapelle Sixtine à Rome. Au XIXe siècle, les peintres officiels comme David ont pu recevoir des sommes d'argent venant de l'État. C'était le peintre officiel de Napoléon. Cet état de fait a eu pour conséquence qu'une poignée d'hommes artistes peintres n'ont compté que sur eux-mêmes pour échanger des idées, des techniques de peinture nouvelles. On pense aux impressionnistes dont les techniques furent exportées en Italie. D'autres faisaient cavalier seul, mais un nombre non négligeable finit tragiquement, il faut en parler quand même. Les musiciens étrangers à l'Italie se sont efforcés de traduire en musique les émotions que ce pays leur procurait. On peut sans dire, sans se tromper, qu'ils partageaient les mêmes émotions que les peintres, mais que les outils de traduction étaient totalement différents, la palisse en aurait dit autant. Au XIXe siècle, le peintre moderne modernise ses techniques, innove, mais offre toujours à l'amateur un message, offre toujours à l'amateur un message visuel direct, compréhensif et innovant. Le musicien à la même époque guide son auditeur à travers le rythme de sa mélodie, là où le titre de sa composition musicale veut l'emmener, sans le laisser déraper vers un sentimentalisme BA. Au XXe siècle, il en sera autrement. Les peintres feront appel à la réflexion du spectateur pour qu'il devine le sens de son œuvre picturale. Les musiciens, eux, casseront la mélodie par des dissonances ou des disharmonies déroutantes. On ira dans ce siècle de révolution en révolution dans tous les domaines de l'art. Ces révolutions claqueront comme des coups de tonnerre dans le ciel et encore de nos jours. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était pas long, hein, là.
Est-ce que vous avez des questions à poser à notre amie Jacques pour cette excellente prestation?
Tu avais mis pour finir les autres Saint-François d'Assise, un certain Engelbert, je ne sais pas.
Non, c'était une partition musicale. Saint-François d'Assise parlant aux oiseaux, mais je n'ai pas mis, hein, j'ai cité. Ça.
D'accord.
Pareil.
Donc, si j'ai bien compris, nous aurons une deuxième partie du 19e siècle.
C'est mieux que d'avoir...
Du 20e.
La
première partie du 20e, ça pourrait être très très bien.
C'est pas mal aussi. Hein,
ouais,
c'est
ouais, après.
Après, c'est moins bien. Il faut s'habituer,
oui. Donc, personne n'a de questions à poser. Yes, allez.
Bonsoir. Personnellement, je ne sais pas si vous posez la même question, c'est où a-t-il pu trouver d'où viennent toutes ces sources musicales et puis aussi pictoires, parce que, en fait, un certain nombre de peintres ne m'étaient pas connus.
Ben oui, c'est...
Alors, il fallait les nicher. Si vous pouvez m'expliquer.
Je vais vous faire une confidence, j'étais parti pour vous faire une conférence sur les chemins de fer, mais je l'ai rendu. Mais mon épouse m'a dit tu vas les raser. Les femmes, ça connaît rien à la technique. Donc on aurait parlé de transformateur. Et c'est vrai que moi, je peux vous dire, je suis allé en Italie en 1956. On a changé 4 fois de locomotive et Rome-Paris, ça 22 heures. Il y avait quoi dire. Mais finalement, après, je suis tombé sur un bon bouquin qui s'appelait les peintres de français et italiens, et moi en Italie, je ne sais plus de ce. Donc ça, j'ai puisé là-dedans. Je vous donnerai le titre exact parce qu'il m'a échappé. Dans Internet, normalement, comme tout le monde. Hein. Et puis, ben, mes sources musicales, c'est personnel.
Les sources médicales, c'est habituel.
C'est personnel.
Ouais, c'est personnel. Et votre conférence a déraillé.
Alors, elle a déraillé sur quoi, madame? Oui, là, ben, ça, c'est la fin. Hein. Voilà.
Bien, merci beaucoup pour votre travail. Merci.
Bon, très bien, jeune homme.
C'est ça, que ça vous a plu?
C'est bien. Il y a juste eu un problème au début, c'est que le son remontait là-dedans. Mais sinon, c'était pas pour moi. C'était assez bon comme ça. Il y avait peut-être un ou deux fichiers qui ont été plus moins bonne qualité que les autres. Le ténor, à la fin, était super.
Bon, super.
Et ça montre qu'on peut utiliser ces
ténors. Vraiment, qui date de...